On est dans le livre de l'Ecclésiaste, et je vous invite à le chercher. On est arrivé au chapitre 5, et on va voir un sujet sur les dons de Dieu, et aussi de regarder quelques autres versets, un peu on va se parcourir les dons de Dieu, c'est vraiment un thème qui traverse tout le livre. Alors, on va aussi lire quelques passages à droite à gauche encore. Donc je vous invite à chercher donc Ecclésiaste chapitre 5, les versets 19, pardon, le verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qui puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Nous courons après le bonheur. Tous nos choix sont déterminés par cette poursuite incessante du bonheur. Et tout ce qui nous apporte un peu de joie ou un petit peu de satisfaction, ici-bas, souvent au moyen de l'argent ou des biens, eh bien, nous cherchons à le multiplier, à le renouveler sans cesse pour satisfaire notre quête du bonheur. Au milieu d'une vie qui connaît, comme on vient de le lire, la frustration, le chagrin, la souffrance, l'amertume. Et invariablement, en recherchant notre bonheur dans ces choses, nous sommes déçus. Et pourtant, on continue à courir après encore et encore. Il y a une tension, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans ce livre de l'Ecclésiaste, et ici dans notre passage, entre la vanité des richesses et la joie, même éphémère, qu'elles nous procurent. Chacun sait que l'argent ne fait pas le bonheur. D'autres ajoutent ne pas en avoir non plus. Il y a cette tension. Coluche disait « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il aide à faire les courses. » Oui. En effet, l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. La richesse ne tient pas ses promesses. Ceux qui passent leur vie à courir après l'argent ne trouvent jamais le bonheur attendu. Regarde, verset 9, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Au verset chapitre 6 et au verset 7, il dit « Tout le travail de l'homme est pour sa bouche et cependant, ses désirs ne sont pas satisfaits. » Un journaliste a un jour posé cette question à Rockefeller, l'homme le plus riche de son époque. Depuis, il a été largement dépassé. On lui a posé la question « Quand aurez-vous assez d'argent ?» Il a dit « Quand j'aurai un dollar de plus. » Jamais assez. La richesse attire aussi des parasites. C'est ce qu'on voit au verset 10. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Vous connaissez des amis, juste pour votre malheur, juste pour venir prendre ce qui vous appartient. Une foule d'amis intéressés qui vous quittent aussitôt que vous n'avez plus rien. La richesse aussi provoque l'insomnie et les craintes. C'est le verset 11. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Jean de La Fontaine a écrit toute une fable, le savetier et le financier. Le savetier dormait sur ses deux oreilles toutes les nuits. Il chantait toute la journée. Et puis il travaillait joyeusement dans son atelier de cordonnerie. Son voisin était financier. Lui, il dormait peu. Et puis il chantait encore moins. Alors un jour, agacé par cette différence, il l'a invité à venir chez lui, il l'a interrogé, et puis un jour, il lui a donné une grosse somme d'argent. Le savetier n'avait jamais vu une telle somme d'argent. Il pensait que c'était tout ce que la terre avait produit depuis le début du monde. Il est rentré chez lui, il a mis ça dans sa cave, et puis il a commencé à craindre. Il a perdu le sommeil. Il ne pouvait plus chanter. Alors il est revenu vers le financier et il lui a dit « Rendez-moi mon sommeil et mes chants, reprenez vos écus. » Dès qu'on a quelque chose, il faut le garder. Et ça génère des craintes et des insomnies. Il faut des assurances, des caméras et des choses comme ça. La richesse est finalement perdue. C'est le verset 13 qui nous dit ça. Dans des mauvaises affaires et finalement de toute manière perdu dans la mort. Verset 14. Nu, il est sorti du ventre de sa mère et nu, il partira. On n'a jamais vu de remorque derrière les corbillards. On n'en porte rien. Et pourtant, la richesse est chèrement accumulée. Le verset 16 dit « De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres, il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. » Ça, c'est... quand on poursuit cela seulement. Mais au verset 17 et 18, l'Ecclésiaste affirme que c'est une chose belle et bonne pour l'homme de jouir de ses petits bonheurs. C'est la vérité déjà soulignée au chapitre 2, au verset 24, il dit « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. J'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » Au chapitre 3, verset 12, il dit « J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. » Et puis au verset 22 du chapitre 3 encore « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part. » Reconnaissons vraiment qu'il y a un paradoxe ici. L'argent est un piège, mais il est aussi un don de Dieu. Dieu veut que nous considérions ce que nous possédons, que ce soit peu ou beaucoup, dans une juste perspective. Nos biens ne sont pas la source de notre joie, mais ils nous donnent une raison de nous réjouir, car toute chose vient de Dieu. Et je vous propose de regarder avec moi ces trois points. Dieu donne ces choses pour notre plaisir. On verra aussi que Dieu donne ces choses pour réfléchir. Et puis enfin, on verra que Dieu donne ces choses pour l'avenir. Regardons d'abord. Dieu donne ces choses pour notre plaisir. Réfléchissons un instant. Dans quel but Dieu a-t-il créé des aliments ? C'est pas simplement pour pourvoir à notre besoin, mais c'est aussi pour notre plaisir. Dieu a fait les choses bonnes pour que nous en jouissions. Nous ne mangeons pas simplement pour faire le plein de vitamines, de sels minéraux, de protéines et d'autres glucides. Sinon, il aurait Slim Fast nous aurait suffi. Une boisson énergisante. Pourvoyant à tous nos besoins journaliers en nutriments, délicieusement simple à préparer, mais définitivement triste à avaler. Si c'était le cas, on irait chaque jour à la pompe, et avec la paille, on boirait notre Slim Fast. Mais Dieu l'a voulu autrement. Au lieu de cela, il a pourvu à une large diversité d'aliments qui excite nos papilles gustatives. On les cuisine, et là, l'odeur se répand. Là, je vais vous faire souffrir un petit peu. juste avant le repas. Ça vient dans vos narines, là, et puis ça, déjà, ça vous réjouit, et puis on s'installe à table avec nos familles, nos amis, et puis on se régale. J'oubliais. Et puis on débouche une bouteille pour notre joie. Regardez ce qu'il dit au chapitre 9 et au verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Oui, Dieu prend plaisir à nous régaler jour après jour. Non seulement à table, trois fois par jour, mais aussi, regardez au verset, chapitre 9, verset 8, il dit, il continue en disant, « Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, des vêtements et des soins corporels. » Dieu ne veut pas simplement combler notre besoin de vêtements pour que nous ayons simplement chaud. Non, il veut aussi que nous soyons bien, que ça nous réjouisse. Il recherche pas simplement l'utile, le nécessaire, mais aussi le beau, l'agréable, pour notre plaisir. Et puis, que dire au verset 9, chapitre 9, verset 9, il dit, « Jouis de la vie avec ta femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie. » Au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Dieu dit ici, au milieu de toutes nos difficultés, il nous donne aussi une épouse, un mari, pour qu'on puisse se réjouir ensemble. Les relations sexuelles ne sont pas données pour la survie de l'espèce seulement, mais pour notre plaisir. Les organes du plaisir qui provoquent la jouissance sont donnés par Dieu pour que nous prenions plaisir. C'est lui qui a créé toutes ces choses-là pour notre plaisir. Il évoque encore l'activité. Hein, au chapitre 3, le verset 22 disait à la fin du passage, « J'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est sa part. » Et puis au chapitre 9 et au verset 10, il dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Oui. Dieu n'est pas un rabat-joie. Au contraire, il est le Dieu bienheureux. Il est le Dieu joyeux. Il dit, il y a d'abondantes, c'est le psalmiste qui dit ça, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Peut-être, parfois, quelqu'un l'a déjà dit, je crois, avec l'influence catholique en France et en Occident, il y a une représentation faussée de qui est Dieu. Souvent on voit Dieu, c'est comme ça qu'il est représenté, Jésus crucifié, défait par la souffrance, le visage défiguré, avec une, on a un, ça nourrit une conception d'un Dieu qui est triste, d'un Dieu qui est vaincu. Mais Christ n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité, il est vainqueur, il est glorifié, il est joyeux, il est satisfait, notre Dieu. Alors, jouissons des bonnes choses, des bons moments que Dieu nous donne en lui rendant grâce, en reconnaissant que c'est sa main qui répand sur nous toutes ces bonnes choses, toutes ces faveurs. C'est lui qui nous permet d'en jouir. Par notre joie devant Dieu, eh bien, nous disons combien nous trouvons notre satisfaction en lui. Mais dans notre expérience personnelle, la tension demeure entre ce constat de vanité et cette invitation à jouir des simples plaisirs de la vie. Et l'Ecclésiaste, il maintient cette tension, mais il cherche à éviter les deux extrêmes que l'on pourrait rencontrer. Et dans lesquels on peut facilement tomber. Le premier extrême, ce serait de dire que nous ne devrions jamais profiter des plaisirs de la vie, comme manger, boire et travailler, puisque tout est vanité. On retrouve cette idée dans l'ascétisme, chez les gens qui se privent de manger ou de boire, et ce qui devrait les rendre bien plus spirituels, d'après eux. Au contraire, la Bible dit et nous encourage à profiter de ce que Dieu nous donne pour notre plaisir en le remerciant. Mais l'autre extrême qui nous guette, c'est celui de vouloir trouver notre bonheur absolu dans ces choses. dans ces petits bonheurs. Rien sur cette terre ne peut nous rendre vraiment heureux, nous dit l'Ecclésiaste. Au fond, nous le savons, si nous cherchons le bonheur dans ce que nous possédons, notre illusion s'envole aussitôt qu'on la possède. Nous voulons quelque chose d'autre que nous n'avons pas. Deuxième pensée, Dieu nous donne ces choses pour réfléchir. Quand on regarde nos vies, bien sûr, on voit quelques jours de joie, quelques jours de bonheur, quelques jours où on est satisfait, mais aussi beaucoup de joie, de jours difficiles. Il paraît évident que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On fait des mauvaises affaires, on connaît la maladie, la souffrance, le deuil et beaucoup de chagrin. Au chapitre 7 et au verset 13 et 14, il dit « Regarde l'œuvre de Dieu ». Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Il est en train de dire, quand Dieu fait quelque chose, on peut rien y changer. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Dieu a fait l'un comme l'autre. L'homme ne peut rien changer. C'est Dieu qui donne des jours de bonheur, des jours de malheur. C'est pas au choix. On peut juste prendre ce que Dieu nous donne. Dieu a fait l'un comme l'autre. Dieu nous donne des jours heureux pour nous réjouir. Et puis Dieu nous donne des jours malheureux pour réfléchir et apprendre. Avant d'évoquer à quoi nous devrions réfléchir, je précise que Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon. Il fait constamment du bien à ses enfants. Il ne fait pas du bien occasionnellement. Il leur fait perpétuellement du bien. Et il ne cessera jamais de leur faire du bien. John Piper dit, « Lorsque les choses tournent mal, cela ne veut pas dire que le Seigneur ne nous fait plus du bien, mais plutôt qu'il modifie la situation de façon à nous en faire davantage si nous continuons à l'aimer et à le suivre. Et c'est ce que démontre le livre de Job. Pour ceux qui connaissent le livre de Job, il était un homme craignant Dieu, rempli de bénédictions, de soins divins. Et puis, il a tout perdu. Mais à la fin de son livre, on voit bien qu'il ne regrette rien et qu'il a découvert bien plus. Et non seulement, il n'y a pas du tout d'amertume à la fin du livre, mais au contraire, une louange envers Dieu. Et cela même avant que Dieu lui restaure tous les biens qu'il lui avait fait perdre. Le Dieu bon fait des jours difficiles. Ça, c'est compliqué à saisir. Hein. Mais la sagesse accepte ce que Dieu donne. On a lu Jacques, chapitre 1. Il dit, mes frères, regardez comme une joie parfaite, comme une joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être soumis. Et juste après, il dit, et si quelqu'un manque de sagesse, pourquoi est-ce qu'il dit ça maintenant? Parce que souvent, on manque de sagesse pour voir comment une joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes soumis. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu lui donnera simplement. Et Job a fait cette expérience. Il dit, après avoir tout perdu, enfants, serviteurs, maisons, troupeaux, sans raison apparente, après avoir perdu la santé, seul bien qui lui restait, après que sa femme lui ait dit « Maudit Dieu et meurt » et qu'elle l'ait quitté, Job répond « Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? » Voyez-vous, Job est sage ici. Il comprend que c'est Dieu qui donne ces choses, les jours de bonheur et les jours difficiles. Quand les choses n'arrivent pas comme je le souhaite, Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. C'est cela qui va me soutenir. Le cantique tiré de que l'on aime bien chanter, qui est tiré d'Ésaïe 40, dit « Qui sont de l'Esprit de l'Éternel ? Qui sait l'éclairer de ses conseils ? Qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans ? Personne. Nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait. C'est ce qu'il avait déjà dit au chapitre 3, verset 11. Il dit que Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs, bien que l'homme ne comprenne pas tout ce que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Quand les choses ne vont pas bien, ou lorsque Dieu ne nous permet pas de jouir de la vie, il se passe quelque chose dans nos cœurs. Les questions essentielles viennent à la surface et on réfléchit. On réfléchit, pourquoi tant de souffrances ? Et puis on cherche à comprendre. Et dans le chapitre 7, l'Ecclésiaste dévoile quelques-unes de ces des éléments de réponse. Au chapitre 7, verset 20, il dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. » Là, il est en train de dire quelque chose d'important. Il dit, vous voyez bien, le péché est dans notre cœur. Et souvent, ça sort de nos bouches et ça fait mal aux autres. Et souviens-toi que quand tu entends quelque chose qui fait mal à ton égard, tu as déjà fait mal à d'autres. Et là, on comprend qu'il y a une souffrance qui est inhérente à cause de nos vies de pécheurs. Au chapitre 7, toujours, et au verset 29, il dit « Seulement voici ce que j'ai trouvé, voilà sa découverte, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et dans ces détours, eh bien, ils ont conduit, ces détours les ont conduits à de nombreux conflits, à des abus, à des tromperies, à des mensonges, qui génèrent autant de souffrances et d'amertume. » À quoi réfléchir encore ? Mais à l'incertitude de la vie, de l'avenir. Au chapitre 6, la fin du chapitre 6 dit, la dernière partie du verset 12, « Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil ?» On ne connaît pas l'avenir. Nous ne maîtrisons absolument rien. Nous sommes entièrement dépendants de Dieu. Si Dieu veut, nous ferons ceci, cela. Si Dieu veut, nous irons là-bas. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais une chose sûre que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons connaître celui qui tient demain entre ses mains. Une autre chose à laquelle nous sommes amenés à réfléchir, c'est la certitude de la mort. Chapitre 9 dit, verset 2, « Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. » Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est excepté ? La mort frappe tout le monde. Et nous ne connaissons pas son heure. Chapitre 9, verset 12, il dit « L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. » On est fragile, on est passager. Et donc de réfléchir à ces choses nous pousse à réfléchir et à nous préparer à ces événements, à nous préparer à rencontrer notre Créateur. Enfin, Dieu nous donne ces choses pour l'avenir. Nous aspirons tous à quelque chose de plus. C'est cela qui crée la tension que l'on lit dans tout le livre de l'Ecclésiaste. On aime ces petits plaisirs, ces moments de... Mais on sait bien que ça ne satisfera jamais nos cœurs. On aspire à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus permanent. La chose qui nous rendrait vraiment heureux. Pour de vrai, pour de bon. Nous savons qu'elle doit exister, puisque nous y aspirons tous. Mais ces plaisirs éphémères, toutes ces choses ne sont pas ce que nous cherchons. Car comme le dit C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, il dit « Elles ne sont pas la chose elle-même. Elles ne sont que le parfum d'une fleur que nous n'avons pas trouvée, l'écho d'une mélodie que nous n'avons pas entendue, les nouvelles d'un pays que nous n'avons encore jamais visité. Quelque chose en nous aspire à une fête qui ne s'arrêterait pas, à un endroit où l'on se sent vraiment chez soi, à une relation qui ne nous décevra pas. » Cette réalité-là, l'Ecclésiaste nous la pointe du doigt en disant « Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, quelque chose en nous aspire à une éternité magnifique qui va nous combler définitivement. » Si nous aspirons à plus, c'est que nous avons été créés pour plus. Nous savons, au fond, qu'il y a plus que manger, boire et travailler, que cette vie sur terre, sous le soleil, ne peut pas vraiment nous apporter ce dont nous avons besoin. Lors des fêtes juives, il est fréquemment mention de la joie qui devait animer le peuple. Je trouve ça merveilleux. Je voudrais vous lire quelques passages en Deutéronome 12. Deutéronome 12 dit, il parle ici du tabernacle, de la tente où la gloire de Dieu reposait. Voilà ce qu'il dit, chapitre 12, verset 7. C'est là, devant le tabernacle. Le tabernacle, c'était le symbole de la présence de Dieu. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Il dit au verset 12, c'est là, devant l'Éternel, que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes. Et puis au verset 18, il dit encore, c'est là, mais devant l'Éternel, ton Dieu, que tu mangeras dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante. Et les lévites qui sera devant tes portes. Et c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Dieu est là en train d'obliger les hommes et les familles juives à se réjouir devant Dieu. Il y a encore au chapitre 14 et au verset 26, écoutez ça, là encore devant le tabernacle, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. La joie était intimement associée au fait d'être devant Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que si tu es devant moi, tu te réjouis. Être dans ma présence, c'est se réjouir, c'est connaître l'abondance des joies devant Dieu. Les joies que nous pouvons connaître ici-bas font simplement écho à cette joie plus grande, à cette joie éternelle d'être dans la présence de Dieu. Lors de la Pâque, chaque famille juive devait manger un agneau rôti au feu. Après l'avoir tué et avoir appliqué son sang sur les montants de la porte de leur maison, encore aujourd'hui à Pâques, on mange de l'agneau. C'est un délice qui nous rappelle un agneau plus grand et plus parfait. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés, qui va nourrir nos âmes, qui va nourrir nos vies, qui va satisfaire nos cœurs. Ce repas et la joie qu'il nous procure fait écho à ce don grand, glorieux, celui de Jésus-Christ, crucifié pour nous, qui nous offre le pardon des péchés et la vie éternelle. l'abondance de nourriture, le vin font écho au bonheur que connaîtront éternellement tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qui se sont réconciliés. Jésus se présente lui-même comme le pain de vie, celui seul qui peut rassasier nos cœurs. Lorsque le fils prodigue revient repentant à la maison, le père, dans sa joie, fait tuer le veau gras et il commande de faire la fête à toute sa maison. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et maintenant il est retrouvé. Nos repas de famille sont comme un faible écho à la joie des retrouvailles éternelles que nous connaîtrons avec notre Père. Jésus a institué un repas, du pain, du vin, pour qu'on se souvienne de son sacrifice. Et nous, chrétiens, nous nous réunissons mois après mois pour célébrer ces choses-là, pour réjouir nos cœurs d'avoir trouvé en Jésus notre pardon et la vie, cette chose plus grande à laquelle nos cœurs aspirent. En Apocalypse, chapitre 19 et versets 7 et à 9, Jean a dit: réjouissons-nous, soyons donc préparés. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà pourquoi les repas, voilà pourquoi tout ce que l'on peut manger, boire, tout cela en vue d'un repas plus grand, plus glorieux, plus permanent, les noces de l'agneau. Dieu nous appelle donc à nous réjouir en lui et à profiter de tout ce qu'il nous donne dans sa grâce. C'est ce que dit si bien le théologien et pasteur Jonathan Edwards du XVIIIe siècle. Il dit: Dieu est le bien suprême de toute créature raisonnable, et la joie que nous trouvons en lui est le seul bonheur par lequel nos âmes peuvent être vraiment satisfaites. Frères, mères, maris et femmes, les enfants ou les amis ne sont que les ombres, mais Dieu est la substance de notre joie. Ce ne sont que des rayons, mais Dieu est le soleil. Ce ne sont que des courants, mais Dieu est la fontaine. Ce ne sont que des gouttes, mais Dieu est l'océan. Tout ce qui fait notre joie ici-bas n'est qu'un aperçu et un dérivé de notre vraie joie, la joie éternelle. Si on remonte le courant, on trouve la source, la vraie joie, Dieu lui-même, et ce qu'il veut nous donner par-dessus tout, le don suprême, que ta main sème, c'est notre pardon, c'est la paix, et ta clémence, trésor immense, c'est le plus grand de tes bienfaits. Je termine avec deux applications. Si vous connaissez des jours difficiles en ce moment, c'est un don de Dieu pour réfléchir et pour apprendre. Dieu vous aime. Il l'a démontré en donnant son Fils pour vous à la croix. Il veut vous donner plus encore des biens éternels, une conformité plus grande à Jésus-Christ. Au travers des jours difficiles, il nous perfectionne dans la patience, dans la persévérance, dans la douceur, dans la compassion les uns envers les autres. Il nous donne aussi sa consolation, par laquelle il nous rend capable de consoler les autres. Il nous fait aimer plus que tout l'éternité, la présence de Dieu et le ciel. Si vous connaissez des jours de joie, réjouissez-vous. Réjouissez-vous avec d'autres et rendez grâce à Dieu qui nous donne ces joies. Et souvenez-vous, quelles sont éphémères? Quels sont l'écho d'une joie plus grande et plus parfaite? Celle d'être un jour devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va prier, puis nos musiciens vont se revenir sur l'estrade pour chanter un dernier cantique, justement, le don suprême. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer parce que nous voyons la grandeur de ta beauté. Nous voyons l'immensité de ton amour, de ta provision, de ta fidélité au travers des repas que nous prenons jour après jour, qui nous régalent, qui nous délectent. Ces repas que nous pouvons prendre avec nos familles, avec nos amis, qui nous réjouissent. Seigneur, ils sont simplement l'écho du jour où nous présenterons devant toi, lavés de toutes nos souillures, rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ en croix. Et désormais, dans ta présence pour l'éternité, et nous réjouir éternellement devant ta face. Seigneur, sois loué, sois béni pour cela. Je prie pour ceux qui vivent des temps difficiles, que tu leur donnes. Seigneur, que tu les préserves du malin, que tu les préserves de l'amertume, mais qu'au contraire, tu développes dans leur cœur tout le caractère de Christ, cette douceur, cette confiance, cet abandon en toi. Je prie pour que tu les visites et que tu utilises, Seigneur, chaque circonstance difficile pour leur propre consolation, afin de les rendre capables de consoler d'autres. Seigneur, bénis-les, encourage-les. Permets-nous qu'en Église, on puisse les aider à tourner leur regard vers l'éternité et le jour où nous serons devant ta face, éternellement satisfaits de toi. Je te loue. Je veux te dire combien je t'aime pour ce que tu as accompli pour nous. En Jésus-Christ. Amen.